This is a public service announcement to inform you that Big Blue is back.
Hey, where you go? Let's take it but just support.
In the club, popping with my niggas. All up, rocking on them jiggas.
On the molly. Et oui les gars, bienvenue dans un nouvel épisode du Tailgate Podcast. Ce soir, dans l'édition du 2 octobre, et non, je n'ai pas de présentation à faire pour l'épisode de ce soir. Vous aurez compris que tous les collaborateurs ont soit été rétrogradés sur le Practice Squad ou sont présentement sur le IR. Évidemment, les gars, je sais que vous écoutez le podcast, alors c'est des blagues. Vous n'avez pas été rétrogradé sur le Practice Squad pour les auditeurs. Tous nos collaborateurs avaient malheureusement des empêchements pour l'enregistrement de cette semaine. Mais comme tout bon podcast qui se soucie de ses auditeurs, je suis là ce soir pour vous et pour vous fournir un épisode de qualité qui vous permettra, plus particulièrement aujourd'hui, de faire vos changements de dernière minute dans vos line-up. Ce que je veux dire par là, premièrement les gars, on a encore beaucoup de blessures, nouvelles blessures, joueurs qui reviennent cette semaine dans la NFL. Et puis pour la première fois de la saison, on a également des équipes qui se retrouvent en situation de bye. Donc nécessairement des joueurs que vous allez devoir remplacer dans votre alignement fantasy. Alors on aura l'occasion, bien évidemment, de faire le tour de tout cela ce soir. Également étant seul avec un micro pour le balado. Ça va me permettre de peut-être plus aller en profondeur sur mes analyses au niveau des matchs de la semaine dernière et des matchs à venir. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, si vous voulez amener des nuances, si vous voulez me contredire, n'hésitez pas à interagir avec nous, la page Instagram du Tailgate Podcast. On est toujours très heureux de parler avec vous, chers auditeurs. Restez à l'affût, justement, dans la même ordre d'idées. Une ancienne facette fera son retour dans les prochaines semaines au niveau du Tailgate Podcast et cela nécessitera vos interventions. Alors, c'est ça qui est à venir. Comme je vous ai dit en début d'épisode, ou je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le dis là, le déroulement du podcast ne change pas, même si on est dans la situation présente. Alors les segments habituels, les segments légendaires seront toujours avec vous, ce qui me permet de commencer avec le fameux segment, le très apprécié. Présente ton breuvage. Alors les gars, ce soir, premièrement, si vous m'entendez me désaltérer, c'est seulement par expérience. Quand j'avais fait des pods tout seul dans le passé, je me ramassais rapidement avec la gueule sur l'asphalte. Donc s'il y a des petites pauses, je m'en excuse. Je ferai de mon mieux. Mais je me désaltérerai ce soir en discutant avec vous une excellente bière que j'ai déjà goûtée par le passé et qui était en rabais chez Metro la semaine dernière. Donc on peut dire que j'ai sauté sur l'occasion de me procurer la framboise de la microbrasserie La Même Frique. Donc, si vous êtes en train de ramasser papier-crayon quelque part sur la table, c'est la framboise de la brasserie La Même Frique. Évidemment, dans la région de Magog, dans les cantons de l'Est, bière très fruitée, quand même assez houblonnée. Par contre, personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc c'est également, s'il y en a qui veulent avoir peut-être une photo de la canette pour vous la procurer, n'hésitez pas à nous contacter sur la chaîne, la page Instagram du Tailgate Podcast plutôt, excusez-moi. Également, la semaine dernière, on a été choyé par la présence de notre analyste NCA en chef, le Manitou du football collégial, pourrais-je dire, et il nous avait identifié quelques matchs à regarder la semaine dernière qui ont été des matchs, ma foi, enlevants. Alors, on va avoir l'opportunité de faire le retour là-dessus un petit peu plus tard. Les gars, je rentre directement dans le vif du sujet. La semaine dernière, le pod vous a été enregistré lors de la soirée de jeudi et avec les auditeurs qui étaient sur place pour la première fois de l'histoire ainsi que les collaborateurs. On a eu la chance de regarder ce match entre les deux équipes d'oiseaux, donc la bataille des oiseaux entre les Seahawks et les Cards. Un match qui a été, somme toute, assez somnolent jusqu'en fin de match. Par contre, quelques éléments que j'aimerais vous mentionner par rapport à ces deux équipes-là en vue de la semaine qui suit. Chose que je retiens, notamment, on était douteux sur un bounce back de Maserati Marv. Eh bien, il a réussi à faire une performance quand même respectable la semaine dernière dans la défaite. Notamment, on a vu à quel point le toucher qu'il a compté en deuxième demi comptait beaucoup pour lui. On l'a vu s'agenouiller pour faire une prière en espérant pour les owners de Maserati Marv qu'il sera continué sur sa bonne lancée pour les semaines à venir. Par contre, personnellement, de mon côté, tout au long de l'épisode, vous allez voir, c'est vraiment mon avis. Il n'y a personne pour me contredire, donc on va y aller comme ça. Maserati Marv, de mon côté, je le considère toujours comme un flex play. Je pense que le volume est un petit peu en enjeu à son niveau. En début de saison, on avait vu ses mains pleines de beurre, mais là, vraisemblablement, on n'a pas eu beaucoup, plus que de 8 targets. Son côté cette année qui est quand même très respectable, là, 8 targets pour un wide receiver. Mais on voit vraiment que la valeur de sûreté chez les Cards, c'est Trey McBride, et ça continue à chaque game. La semaine dernière, on avait parlé également de Trey Benson. Trey Benson, qui n'a pas eu la performance espérée pour ceux qui espéraient un remplacement copié-collé de James Conner. Et en plus, Trey Benson, qui est maintenant sur le IR cette semaine, donc une mauvaise nouvelle à ce niveau-là. Par contre, pour ceux qui regardaient déjà Emory Demarcado, qui a eu un touché par la passe notamment la semaine dernière, on s'entend à une augmentation de volume de son niveau. C'est borderline flex là, les gars, on va se le dire. C'est pas le plus gros bonhomme non plus, mais sa versatilité m'a fait croire qu'il pourrait peut-être être quand même serviceable dans les deep leagues. Alors, je sais pas si certains d'entre vous l'avaient déjà ramassé la semaine dernière, mais bon, c'est à monitorer, comme on aime bien dire sur le Tailgate Podcast. Du côté des Seahawks, Jackson Smith and Jigba continue sur sa bonne lancée. Très bonne saison de son côté. Des catchs importants, notamment au quatrième quart, justement, qui ont permis aux Seahawks d'aller arracher la victoire aux Cards. Par contre, j'aimerais parler de la situation des running backs chez les Seahawks. On a Kenneth Walker qui continue à avoir des bonnes performances. Par contre, on dirait que Mike McDonald est allergique à lui donner le ballon en red zone. Pour ceux qui utilisent l'application Bet365, la semaine dernière, on était tous rivés devant le téléviseur pour espérer un toucher de Kenneth Walker, et malheureusement, dès qu'on rentrait vraisemblablement entre la ligne de 10 et la ligne de 15, là, c'était Zach Charbonnet qui arrivait pour rentrer la pilule à la maison. C'est quand même un petit concern que j'ai. Si Kenneth Walker ne peut pas ramasser des touchdowns cette année, on sait qu'il est impliqué aussi par la passe en plus de la course, qui lui donne un petit upside. Par contre, de là à le voir prendre un rôle de RB1 niveau fantasy, j'ai un petit peu de la misère à y croire s'il est vraiment... Si Charbonnet est favorisé à lui, heavily pour le reste de la saison, pour ce qui est du red zone. Par contre, c'est peut-être un petit peu de frustration que j'ai vécu également, là, de ne pas avoir eu le Super Boost la semaine dernière, là, on va se le dire les gars. Mais je pense vraiment que Kenneth Walker, s'il pouvait avoir des touch red zone un petit peu plus, là, il serait vraiment un excellent choix. Puis sur sa valeur au repêchage cette année en fantasy, je trouve que ça aurait été un really good value. Les Seahawks qui bougent maintenant à 3-1 et les Cards à 2-2. Ça aurait été une victoire importante pour les Cards qui auraient pu niveler l'avance au niveau de la division. Mais bon, les Seahawks qui sont 3-1 cette saison. Donc c'était un match jeudi soir la semaine dernière. Et également, on avait pour une première cette année un match overseas, donc l'autre côté de l'océan. Les Steelers qui accueillaient, entre guillemets, vous m'aurez compris, les Vikings à Dublin la semaine dernière. Ça a commencé très fort du côté des Steelers. DK Metcalf qui s'est imposé en début de match avec un succulent jeu de presque tout le terrain pour aller compter un touché. Ça l'a grandement aidé à son total de 126 verges par la passe dans la victoire. Du côté des autres receveurs des Steelers, par contre, c'est un petit peu alarmant. C'est quasiment comme si on n'avait pas de wide receiver 2. Calvin Austin est un joueur que je surveillais étroitement, surtout quand je regardais la profondeur du wide receiver core des Steelers, qui est quand même très moindre cette année. Je m'attendais vraiment à des bonnes performances de sa part. Malheureusement, c'est plus les tight ends qui se partagent le share de wide receiver 2. Et ça fait que dans l'attaque par la passe des Steelers, c'est très difficile de truster n'importe qui d'autre que DK Metcalf présentement. Par contre, il y a un très bon point positif dans leur attaque, et plus particulièrement au niveau fantasy, un joueur qui est très payant pour sa valeur. Kenneth Gainwell, qui a été dans les dernières saisons dans un rôle plutôt de support avec les Eagles, vous en doutez déjà probablement, mais là qui éclot présentement chez les Steelers. On a 99 verges par la course et on rajoute à ça 35 par la passe. Donc Kenneth Gainwell, sa valeur est très bonne en fantasy présentement, donc gardez-la à l'œil, même RB2 facilement selon moi. Du côté des Vikings, je crois que les owners de Justin Jefferson ont été très contents de voir ses performances dans ce match-là, en deuxième demi, plus particulièrement. Et Jordan Addison également, qui faisait, si je ne me trompe pas, son retour après sa suspension. Donc a quand même été capable d'accumuler plus de 114 verges par la passe. Parfois, quand on voit un receveur revenir comme ça, un numéro 2 de qualité, on peut s'attendre à ce que ça ait un impact pour le wide receiver 1. Dans ce cas-ci, j'ai bien l'impression que chez les Vikings, les deux étant ensemble sur le terrain, je crois que ça ouvre vraiment la porte aux deux, chacun de leur côté, d'avoir des très bonnes stats fantasy. Alors ceux qui avaient possiblement pris une chance sur Jordan Addison au repêchage fantasy, good job, il a l'air en pleine santé, évidemment. Et puis... va certainement pouvoir vous amener des services comme flex dans votre équipe. Par contre, pour les Vikings, de tomber à 2-2, c'est peut-être un petit peu problématique. On va devoir bounce back cette semaine. Et puis, on aura un match-up qui est vraiment pas facile. On en discutera plus tard dans le podcast. Donc, premier match overseas, les Steelers. Et d'ailleurs, parlant des Steelers, je voulais pas trop faire le point si tôt dans l'épisode sur... la AFC North, mais les Steelers, avec cette victoire qui vient de se mettre, même s'il y a 4 matchs de jouer, on s'entend, dans une très bonne position pour possiblement aller chercher la division là, avec ce qui se passe dans la AFC North. Et puis leur défense qui est toujours aussi dominante que dans les dernières années, on a vu TJ Watt, c'était très difficile pour Carson Wentz dans la pochette en fin de semaine. Belle victoire et surtout très importante, victoire des Steelers. La semaine dernière, encore une fois, dans le Tailgate Podcast, nous avons pris plaisir à beurrer Michael Penix pas mal. On a dit que c'était peut-être temps quasiment de sonner l'alarme chez les Falcons. Et on avait quand même un match-up favorable, notamment en raison des blessures chez les Commanders en fin de semaine. Et les Falcons ont bounce back comme ils devaient. D'ailleurs, derrière une grosse performance de Michael Penix Jr. et de son trio à l'attaque, notamment de Bijan Robinson, Drake London et, les gars, je vais le dire, Kyle Pitts. He might be back, boys. He might be back. This might be the year. Checker là-bas, il va faire un ACL à la prochaine game, juste à cause que j'ai dit ça. That's just my luck right there. Bijan Robinson, complètement incroyable dans la victoire. 106 verges par la passe, 75 verges au sol. A récolté un touché également dans la victoire. Mais Michael Penix qui lance pour 313 verges et qui lance deux touchés avec une interception, seulement une interception au travers de ça. Je pense que c'est vraiment ce qui a fait la différence du côté des Falcons. Donc vraiment bon à voir. Et Drake London, un joueur que personnellement je n'aimais vraiment pas beaucoup son value, selon son positionnement et son ADP au draft cette année dans le Fantasy World. Drake London qui... me surprend, mais qui live up to the expectation. Est-ce que c'est peut-être un déclic aussi avec Penix? Est-ce que c'est un pressentiment des choses à venir? Je suis quand même assez optimiste que Drake London finalement pourra finir parmi les top receveurs fantasy cette année. Et puis les Falcons auront vraiment besoin de ses services parce que des gars comme Darnell Mooney ont vraiment été moins impliqués cette année là. Donc, j'aime bien Drake London, finalement, après l'avoir bullshité pendant tout le début de la saison. Et du côté des Commanders, ben, le retour de Jaden Daniels la semaine prochaine va faire un grand bien. Quoique Marcus Mariota n'a pas fait tant mal que ça. Luke McCaffrey également qui récolte un touchdown. C'est rare que c'est pas un autre McCaffrey qu'on voit scorer dans cette situation-là. Mais au niveau du jeu par la passe, c'était complètement atroce du côté des Commanders. Là. On a Deebo Samuel, qui a presque été le seul receveur qui a complété des attrapés importants avec 6 réceptions pour 72 et un touchdown. Debo également qui est une belle surprise en fonction de son ADP cette année, by the way. Mais après ça, ça fonctionne juste pas. L'absence de Terry McLaurin se fait vraiment sentir. Et justement, en ce moment, pendant que je record le podcast, je viens d'avoir la notification que Terry McLaurin va être out cette semaine. Donc, ce sera encore assez compliqué. Et la valeur de Debo vraisemblablement augmente. Mais niveau fantasy, présentement avec les Commanders, je ne m'attendais pas à dire ça aussitôt dans la saison. En fait, je ne m'attendais pas à dire ça cette année. Avec leur équipe sur papier, ça risque d'être difficile de faire confiance à des joueurs des Commanders dans les prochaines semaines au niveau fantasy. Maintenant, mesdames et messieurs, c'est le moment que vous attendiez tous. Jackson Dart is here and he is him. Les Chargers qui perdent un match vraisemblablement qu'ils auraient pu gagner tous les experts choisissaient les Chargers en fin de semaine contre mes Giants de New York. Eh bien non, c'est Jackson Dart qui a volé la vedette au MetLife Stadium dimanche avec une victoire de 21-18. Écoutez, j'appréhendais ce match depuis très longtemps, que vous devez vous en douter. Je n'étais pas nécessairement d'accord avec la décision d'envoyer Jackson Dart dans la mêlée contre l'imposante défense des Chargers comme ça. Par contre, il a bien fait. Il n'a pas été exceptionnel, on va se le dire les gars, j'aurais pu être ici en train de le glaiser pendant 20 minutes à quel point il était bon. Il a joué un bon match pour gagner. Son touché par la course a vraiment fait beaucoup de bien sur la première drive du match, elle a vraiment set de tone, comme on aime bien dire. Et Cam Scalabou aussi, probablement que vous avez starté dans vos ligues si vous l'aviez disponible, avec l'absence de John Tracy. Lui aussi a vu beaucoup de volume et a fait une bonne performance par la course dans ce match. Le point négatif, et vous l'aurez vu, Malik Nabers qui est maintenant blessé pour la saison. Ça m'amène à vous parler un petit peu de, pour ceux de vous qui ont Malik Nabers et qui vraisemblablement, ben, en fait, vous pouvez le mettre pour le IRs pour les vibes, mais si c'est pas un Keeper League, probablement vous l'avez droppé. Alors, comment remplacer Malik Nabers? La stratégie que certains, pour laquelle certains peuvent opter est d'aller directement dans la même équipe et de ramasser l'élu, le joueur qui ramassera le volume que Malik Nabers aurait pu avoir cette saison. Évidemment, chez les Giants, on n'a pas des receveurs qui sont de la trame de Malik Nabers. Peut-être que même si son absence, c'est une des worst wide receiver room de la ligue. Ça nous vient quand même, si on veut quand même opter pour cette stratégie-là, on a deux choix en tête, donc Darius Slayton et Wanda Robinson. Avec l'arrivée de Jackson Dart, j'aurais tendance à vous conseiller de préconiser Wanda Robinson. On l'a vu déjà dans le match en fin de semaine. Le playbook a été simplifié. Et Wanda Robinson, c'est pas mal dans des offenses comme ça qui a le plus gros workload. Donc, jouant dans le slot, les attraper courts à l'intérieur de 10 verges. Je l'attends pas nécessairement être un big play threat autant que Slayton. Par contre, Wanda Robinson risque de voir beaucoup de volume dans les prochaines semaines sur des jeux faciles, des jeux rapides. Alors, si vous cherchez un gars qui peut avoir du volume sans avoir trop de verges, mais au moins vous avez en PPR son point pour le catch, j'aurais tendance à préconiser Wanda Robinson à ce niveau-là. Mais les gars, une victoire qui fait très, très, très du bien pour un fan des Giants. Mais je veux quand même noter du côté des Chargers, les propriétaires de Omarion Hampton, ça va en progressant cette année ses performances. Donc également à ce niveau-là, c'est un très bon signe. Et un receveur qui me surprend vraiment, vraiment beaucoup du côté des Chargers, c'est Quentin Johnston, qui était possiblement même disponible après la semaine 1 ou après votre draft sur les waivers, qui est vraiment devenu la cible préférée de Justin Herbert dans les zones profondes, capable de se démarquer et surtout cette année attrape les ballons qui sont lancés vers lui. Si je ne me trompe pas, il a touché dans les trois derniers matchs et puis il a presque éclipsé la marque des 100 verges en fin de semaine contre les Giants. C'est sûr qu'il était matché contre le puissant, entre guillemets, Deontay Banks. The bank was again really open on Sunday. Mais bon, Quentin Johnson qui commence à vraiment à mieux performer, là, peut-être à s'adapter au niveau de la NFL, j'en suis trop sûr. Mais qui devient une très bonne option, borderline wide receiver 2 flex au niveau de vos équipes, surtout avec les bails, je serais vraiment pas stressé d'habiller Quentin Johnson comme wide receiver 2. Keenan Allen qui avait eu un très bon début de saison a ralenti un petit peu. Et là, McConkie, on doit commencer à se poser peut-être des questions à son niveau. C'est peut-être pas le début de saison espéré pour ses fantasy owners. Mais je suis pas mal sûr qu'avec l'émergence de Quentin Johnson, il va retrouver son rôle justement là-dedans. Si Quentin Johnson doit être surveillé plus agressivement par les défenses opposées. Et Big Blue is back, baby. Big Blue is back. Big Blue is back. Pour mes analystes qui avaient choisi les Titans over les Texans la semaine passée, ben, ils sont fait tracer 26-0. Et j'ai pas grand chose à dire sur ce match-là, les gars, à part que probablement que dans toutes vos ligues, Woody Marks a été était le gars le disponible le plus intéressant. Commence à prendre un rôle plus important. On a vu que c'est pas mal le split backfield entre lui et Nick Chubb, toujours pour le moment. Mais Woody Marks, qui a su tirer son épingle du jeu en fin de semaine passée, et ça l'a rendu relevant pour un bon bench. On attend la blessure potentiellement de Nick Chubb qui va arriver à un moment donné. Ça donnerait vraiment la voie libre à Woody pour carry le workload de running back chez les Texans. Pour l'instant, par contre, je crois que c'est borderline flex dans vos équipes. Ou si vous avez des blessés et vous êtes en bail, c'est sûr que c'est pas si mal. Match-up que je regardais vraiment du coin des yeux, sachant que, connaissant mes prédictions de début de saison au niveau des Bucks de Tampa Bay, un début en Lyon chez les Eagles dans ce match à la maison qui contre les Bucks, notamment avec un punt bloqué qui était retourné pour un toucher qui est vraiment, encore une fois, set de tone. Du côté des Eagles, encore une fois, c'est pas trop compliqué la vie niveau performance à l'attaque. C'est quand même, j'ai tendance à dire que Saquon Barkley est un petit peu décevant. C'est sûr que si on s'attend à ce qu'il éclipse les performances de l'année dernière, ben c'est sûr qu'on peut être un peu déçu. Mais son volume par la passe va lui sauver en fantasy. Par contre, Jalen Hurts par la passe cette année, c'est vraiment pas des gros totaux qu'on a à chaque match. Donc, notamment AJ Brown, là, qui, pour ceux qui l'ont drafté, puis son ADP était quand même assez haut. Il faut commencer peut-être à trouver des solutions, là, parce que les Eagles, depuis l'arrivée de Barkley, ça a vraiment changé le scheme. On y va beaucoup plus au sol. Et puis, on sait qu'on a une des meilleures défenses de la ligue, évidemment. Donc, on est un petit peu conservateur. J'espère qu'ils vont être capables d'impliquer plus AJ Brown dans les prochaines semaines. Par contre, avec les performances de Hurts cette saison, j'ai tendance à croire qu'on va garder le même game plan. Donc, si vous avez AJ Brown potentiellement en ce moment, je regarderais. Je sais pas si sa valeur est rendue peut-être même déjà trop basse pour avoir de quoi d'intéressant en retour. Là. Mais si je l'aurais dans une de mes ligues, je considérerais peut-être à lancer quelques appels aux autres DG. Du côté des Bucks, performance phénoménale par contre, du côté de Bucky Irving, plus de 165 verges on the dot, total scrimmage, 63 par la course, 102 par la passe, très impressionnant. Par contre, là, son statut est à monitorer pour la semaine à venir, toujours sur ne pas pratiquer aujourd'hui, nous sommes jeudi, ne pas pratiquer aujourd'hui, questionable, mais un bon questionable. Pour ceux qui ont Rashad White encore disponible dans des ligues, vous avez un benchpot qui est ouvert, qui vous n'avez pas confiance au gars qui est là, je le stackerai peut-être cette semaine là, si Bucky n'est pas là. On sait que Rashad White, on l'a vu dans les dernières années, très capable d'être le feature running back dans cette attaque-là. Donc, vraiment, peut-être une petite suggestion encore une fois. Et Emeka Ikbuka, encore une très bonne performance, selon moi, qui est possiblement le leader pour le Rookie of the Year à l'attaque. Un gros catch pour un toucher, surtout qui a vraiment aidé à son total de verges en fin de semaine. Mais Emeka Ikbuka qui est effectivement une des cibles favorites à Baker. Et en l'absence de présentement de Mike Evans et Chris Godwin là, qui retourne rapidement, qui revient lentement mais sûrement de sa blessure, qui a eu seulement 3 catchs en fin de semaine. Là, donc, Emeka Ikbuka qui va avoir encore un rôle assez important pour les semaines à venir chez les Bucks. Et puis les Bucks maintenant qui encaissent leur première défaite de l'année, alors que les Eagles, eux, sont toujours invaincus à 4-0. Dans les autres matchs que je voulais discuter avec vous aujourd'hui, les gars, pour la semaine dernière, une victoire qui fait beaucoup de bien aux Jags. Beaucoup de bien. Je dis ça comme ça parce qu'on avait vu une certaine animosité du côté du sideline des Jags dans les dernières semaines. Par contre, c'est à noter que les Jags sont quand même 3-1 là, après cette victoire-là. Travis Etienne, ça, j'avais vraiment pas ça sur ma carte de bingo, honnêtement, les gars. Travis Etienne qui connaît des très bonnes performances. Cette année, je ne sais pas si c'est en corrélation avec Brian Thomas Jr. qui a un petit peu de la misère à se mettre en marche, mais Travis Etienne is back. And he feels better than ever, it seems. Pour ceux qui l'ont starté là, il est en feu. Il est en feu. C'est tout ce que j'ai à dire. Puis ceux qui espéraient un peu plus de volume de Bashir Tour, j'ai l'impression que ça va pas venir aussi vite qu'on pensait. Là. Donc potentiellement, peut-être un joueur à dropper. Là. En tout cas, si un Rashad White est encore disponible, qu'on vient de discuter, hein, ça serait à voir. Hein, peut-être qu'on a une meilleure valeur à ce niveau-là. Du côté de vos clubs fantasy, du côté des Niners, c'est sûr que là, le retour de Brock Purdy, on s'attendait à une bonne performance. Malheureusement, il était 22 à 38, ce qui n'est pas un très bon pourcentage. McCaffrey, par contre, toujours aussi lights out. C'est la pierre angulaire de cette attaque-là. Avec presque 150 total scrimmage. Encore une fois, en fin de semaine passée, et on aura l'opportunité d'en jaser pour la semaine à venir, mais ça risque d'être encore plus payant de l'avoir dans votre line-up avec les blessures chez les 49ers qui ne cessent d'augmenter à chaque semaine. Donc ça, c'est vraiment dommage. Mais les Niners qui sont encore toujours dans la course à 3-1. Alors, j'ai bien hâte de voir. Ce sera ce soir, le match contre les Rams. Je vous en parlerai un petit peu plus tantôt. On va aller regarder les lines un petit peu au niveau... peut-être des paris sportifs. La défense des Bears. Match Raiders contre Bears. Que j'ai bien aimé regarder en fin de semaine. La défense des Bears. Qui a très bien performé dans la victoire, évidemment. Joueur que j'aimerais pas discuter du côté des Bears. Roma Dunsey connaît un très bon début de saison. Deuxième saison dans la NFL. Peut-être lui aussi un gars qui est maintenant acclimaté. On voit peut-être un chemistry qui se forme avec M. Caleb Williams. Donc, très encourageant pour ceux qui ont repêché Roman Dunsey. Encore une fois, c'est un joueur que je trouve que j'aime beaucoup sa valeur vis-à-vis ses performances cette saison. Et du côté de Geno Smith, Geno Time! C'est les interceptions qui font mal encore cette année. Par contre, on a un point positif sur l'attaque des Raiders. Et Ashton Jeanty a enfin débloqué. Ça fait vraiment du bien également pour ceux qui l'avaient repêché très haut. Niveau fantasy. Un total de 3 touchés, dont 2 par la passe en fin de semaine. Une éclosion à Las Vegas. Donc ça fait vraiment du bien à voir. Et je crois que ça va continuer sur cette lancée du côté de Ashton Jeanty. On l'a démarré, on a mis de l'huile dans le moteur. Là, il est prêt. Il va prendre son rôle. Je suis très optimiste pour les semaines à venir. Du côté de Ashton Jeanty, mais pas du côté des Raiders par contre. Juste du côté de Ashton Jeanty, fantasy wise. On avait un match-up très attendu du côté de Arrowhead Stadium. Et c'est vraiment dommage que je n'aie pas aujourd'hui mon collaborateur Nick Paco pour qu'il puisse encore une fois évacuer sa frustration sur les Ravens qui ont perdu 37-20 à l'étranger ce week-end. Et ce n'est vraiment pas une performance tolérable pour les fans de Baltimore. On a même vu Cooper Rush rentrer dans le match en deuxième demi. Lamar Jackson semblait blessé, mais pas tant que ça. J'ai l'impression que le shit a hit the fan à Baltimore. Je sais pas quoi dire de plus, mais il manque une identité. On a la défense qui, historiquement, dans les 5 dernières saisons, était une des meilleures de la ligue, incontestée. Tout le monde était d'accord sur ce point-là. Cette année, on alloue beaucoup de points. On a amené Malakai Starks en première ronde. On le voit presque pas sur le terrain. Pas beaucoup de points positifs. Là, c'est peut-être le temps de sonner l'alarme. Et je sais que mon collègue Nico serait en train de scander le congédiement de M. Arba. S'il était sur le podcast aujourd'hui, eh bien, vous croirez que je suis possiblement du même avis, honnêtement. Par contre, peut-être qu'il faudrait peut-être regarder du côté du coordonnateur à défense en ce moment. voir si on aurait un changement qui est besoin à faire là, de ce côté-là. Du côté des Chiefs, pas un bounce back performance, mais une bonne performance de Pat Mahomes. Je pense que c'était la première fois qu'il lançait 4 passes de toucher depuis plus de 1 an. Et le retour de Xavier Worthy a fait beaucoup de bien à cette attaque-là. On l'a vu déjà très impliqué. Pour ceux qui l'avaient gardé sur leur banc, encore une fois, vous devez être très satisfait de sa performance en fin de semaine. Un petit peu plus difficile par la course, par contre, je dois le mentionner. Asia Pacheco, pour ceux qui pensaient qu'elle revenait au niveau, surtout fantasy d'il y a 2 ans, je crois que peut-être ce temps-là est terminé, malheureusement. Mais les Chiefs ont quand même trouvé une façon de battre les Ravens et de compter surtout 37 points face à la défense des Ravens. Donc, définitivement, là, il y a une couille dans le potage à Baltimore. Finalement, on avait le match de Sunday Night. Je pense que c'était un des matchs les plus attendus la semaine dernière. Les Cowboys qui recevaient Michael Parsons et les Packers. Ça, c'était tout qu'un match, par contre. Donc, ça finit pour une nulle. Un petit peu plus décevant à voir ça de ce niveau-là quand on a une nulle dans la NFL. Mais par contre, il y a quand même des performances à noter des deux côtés. Josh Jacobs qui continue son bon travail de l'année dernière, notamment avec ses 2 touchés. Dans l'attaque, par la passe chez Green Bay, ben on a encore un peu all over the place pour ce qui est du partage du load. Par contre, c'est vraiment Romeo Doubs qui a su s'illustrer dans la zone payante en fin de semaine. De là à dire qu'il va scorer 2 touchdowns chaque semaine, je ne sais pas. Par contre, j'aime beaucoup son upside dans le red zone. Et niveau fantasy, je pense vraiment que il a les devants. Là. Peut-être faiblement, vous me direz, là, mais devant les autres receveurs chez les Packers. J'aime beaucoup son style champignon avec le Helmet Protector. Là, donc, je trouve que ça amène du additional aura. C'est pas tant vrai, là. Mais bon. Et puis, il y a Jordan Love qui a très bien fait, lui, de son côté, dans le match nul. Du côté des Cowboys, un gars qui est très content d'avoir la blessure de CeeDee Lamb. Et si vous l'avez en fantasy également, ça doit être la même chose. George Pickens, qui rise to the occasion, avec 2 touchdowns, 134 verges sur 8 réceptions. Ça fait vraiment du plaisir à voir du côté des fans des Cowboys et des propriétaires de George Pickens. Niveau de jeu au sol, Javonte Williams continue encore son bon travail. Encore un joueur avec un excellent value cette année en fantasy. Et là, maintenant, peut-être un petit sujet que je voulais discuter, c'est qu'est-ce qu'on fait avec Jalen Tolbert, Kevante Turpin et Jake Ferguson qui deviennent les options numéro 2 nécessairement dans cette attaque-là. Eh bien, les gars, Jake Ferguson va manger des targets. On l'a vu la semaine précédente avec 14 catches. Encore une fois, cette semaine, a 7 réceptions, dont un touché. Alors, si vous avez besoin de... Je sais que dans un 10-man, il n'est possiblement pas starté dans toutes les équipes. Donc, si vous avez vraiment besoin d'un tight end, ça serait vraiment une option que je considérais fortement. Pour ce qui est de Jalen Tolbert et Kevante Turpin, ça va être très difficile à déterminer c'est qui va avoir le upside à chaque semaine. Je pense vraiment que ça va pouvoir aller d'un côté ou d'un autre. Donc, à ce niveau-là, je suis un peu hésitant d'utiliser un de ces deux joueurs-là potentiellement comme flex dans vos équipes. Petite mise en garde. Mais donc, match nul, ça aurait été le fun pour les storylines que soit Dallas batte Micah ou Micah aille se venger contre Dallas. Mais bon, ce n'est pas arrivé. On a un match nul. Je pense que c'est pour la première fois de la saison, d'ailleurs, dans la NFL. On avait 2 matchs lundi soir aussi. Très quand même intéressant. Ben, Jets Dolphins, ce qui a rendu la chose intéressante, c'est Tyreek Hill qui se vire le genou à l'envers. Puis qui est bien content. En tout cas, tout sourire dans l'ambulance. Donc c'est assez spécial. Par contre, une victoire qui fait du bien aux Dolphins, vraiment. Et Justin Fields aussi, qui était de retour dans l'alignement chez les Jets, qui a bien fait, surtout par la course. Là. On a vu son long jeu par la course qui l'a vraiment aidé. Potentiellement disponible dans quelques-unes de vos ligues. Donc, je le considérerais, honnêtement, pour les prochaines semaines. C'est sûr que le fait qu'il ait un dual threat l'aide beaucoup au niveau fantasy. Et Garrett Wilson qui a fait un catch incroyable. Je l'imagine même pas avec du above QB play. Il serait malade. Alors, j'ai vraiment hâte comment les Jets vont être capables de lui fournir peut-être de quoi d'adéquat quelqu'un qui est capable d'avoir un meilleur break que Justin Fields. Quoi qu'il a pas mal fait dans ce match-là, je n'ai pas rien. J'ai pas dans grand chose à dire à ce niveau-là. Du côté des Dolphins, ben, c'était le retour de Darren Waller. Potentiellement, si vous avez besoin d'un tight end aussi, Darren Waller, oui, c'est sûr que sa performance fantasy a été vraiment améliorée par ses deux touchés. Mais quand même, plus impliqué déjà là que je pensais. Jetez un œil, honnêtement, ça se pourrait que dans les prochaines semaines, ça soit un Jonu Smith de l'an passé 2.0 qui sort de nulle part, puis finalement, un tight end des Dolphins qui est intéressant. Donc, à monitorer également au niveau de Darren Waller dans les prochaines semaines, surtout voir si son volume va augmenter là, pour les semaines à venir. Et finalement, ben, les Broncos qui ont roulé sur les Bengals, personnellement, je pensais que ça allait être la dernière chance à Jake Browning, cette game-là. J'étais sûr qu'à cette date-ci, les Bengals allaient avoir tradé pour un autre QB. Ce n'est pas le cas. La performance de la ligne à l'attaque des Bengals était atroce. Ça l'a complètement bousillé leur momentum à l'attaque pour tout le match. Chase Brown n'est pas fantasy relevant autant qu'on pensait. En fait, il avait un ADP qui était très haut. Et dans cette attaque, il semble à peine performer. Peut-être la raison pourquoi on a encore Jake Browning comme starting QB, ce serait parce qu'on se dit qu'on affrontait la puissante défense des Broncos. Je ne sais pas. Je vois pas comment on peut lui faire confiance encore. C'est très désolant d'être un fan des Bengals présentement. On dirait que c'est quelque chose qui se répète à chaque année. Du côté des Broncos, par contre, quelques beaux points à noter. J.K. Dobbins, qui continue sur sa bonne lancée de la saison dernière, récoltant encore 101 verges au sol cette semaine. Et puis, un joueur qu'on a discuté en début de saison comme un potential sleeper, Roger Harvey, le running back de première année, out of UCF, qui a eu une application plus importante la semaine dernière, notamment par le jeu par la passe. Pour être bien franc avec vous, moi j'avais l'impression que Roger Harvey serait déjà le running back one à cette date-ci. Par contre, J.K. Dobbins ne vend pas sa peau, et puis je pense que c'est très healthy pour une équipe d'avoir deux running backs comme ça qui veulent les deux avoir le plus de temps de jeu possible. Mais Roger Harvey, quand même prudent. Si vous avez le starter, j'espère que c'est dans une deep league. Mais plus la saison avance, j'ai vraiment plus l'impression qu'il pourrait être utile pour vous si vous l'avez staché sous votre banc en fantasy. Donc, les gars, j'en ai profité pour faire un bon recap de la semaine. Et maintenant, avant d'aller voir les match-ups de la semaine prochaine et de la NCAA, c'est l'heure du segment. Et oui, c'est le Dog of the Week. Les gars, si vous aviez à faire une prédiction, je suis sûr que vous auriez parié que mon Dog of the Week serait Jackson Dart. Mais non. Pour ceux qui ont écouté le slate de game à 4h, et plus particulièrement le match qui opposait les Raiders aux Bears, Max Crosby, qui est mon Dog of the Week, vous l'aurez compris, performance magistrale. Je crois qu'il avait 3 passes rabattues au début du deuxième quart. Finalement, dans le match, il a été capable de récolter une interception. Il a joué tout qu'un match, et c'est vraiment décevant pour lui qu'il finalement ça soit dans une défaite contre les Bears en plus de ça. Honnêtement, Certified Dog, un game breaker. Je pense qu'on n'en parle pas assez dans les conversations de top 5 comme defensive end dans la ligue pass rusher. Il est l'enfer, les gars. Si votre équipe joue contre les Raiders, bonne chance. You got a double, Max Crosby. C'est un game breaker. Alors, c'était cela pour le Dog of the Week. Alors maintenant, on va se tourner vers la NCAA. Les matchs qui nous avaient été suggérés par M. Cross la semaine dernière, eh bien, ils ont deliver. Premièrement, on avait le wideout à Penn State. Et Oregon est allé gâcher le party là-bas. Oregon est sorti avec une victoire de 30-24. Donc, victoire très importante de Oregon, classé 6e dans la nation à l'époque, contre Penn State qui, eux autres, étaient classés 3e. Donc on aurait certainement des petites modifications, c'est déjà fait en fait, là, au niveau du classement national. Après ça, un match qu'on surveillait, notamment à cause des enjeux hors du terrain, la fille de Lane Kiffin, pour ceux qui ne savaient pas, a comme copain le starting linebacker de LSU, Whip, et qui a d'ailleurs vomi sur le terrain. Je ne sais pas si c'est son beau-père qui le stressait avec le micro au bord. Mais bref, Ole Miss qui s'en va chercher une importante victoire contre LSU. Une victoire qui fait beaucoup de bien. Et pour LSU, de son autre côté, ça fait assez mal. Là. On a été classé 4e au pays. C'est une vraie le résultat espéré en fin de semaine passée. Il y a des matchs sur lesquels j'avais vraiment les yeux rivés en fin de semaine, c'était Alabama, classé 17e, qui visitait Georgia. Alabama sont sortis en Lyon et Georgia n'ont jamais été capables de faire revirer le vent, puis-je dire. Alabama qui sort avec une victoire importante contre UGA. Donc dans ces trois matchs-là, c'est les équipes qui étaient classées plus hautes au classement qui ont été défaites. Alors, c'était vraiment des très, très bons matchs la semaine dernière à la NCAA. Et on a encore cette semaine quelques matchs à regarder. Je vais vous diriger à ce niveau-là. De mon côté, les matchs qui m'intéressent vraiment commencent à 3h30. On a Texas, classé 9e, qui vont affronter les Gators. Je ne sais pas si je devrais encore dire d'écouter les Gators là, après leur saison. Mais bon, Texas qui visite les Gators à Gainesville. Également, un match-up qui a déjà fait des flamèches dans le passé. On se rappelle du upset de Vanderbilt. Vanderbilt qui vont aller jouer à Alabama. Tuscaloosa en fin de semaine à 3h30 également. Donc Vanderbilt qui sont classés 16e. Là, l'équipe qui a été la risée de la SEC pendant très longtemps. Vraiment une belle amélioration de leur programme. Et pourront-ils encore répéter l'histoire contre Alabama? Ça serait vraiment super. En tout cas, fait que ça va être un bon match à regarder. Et puis sinon, dans un duel All Florida aussi, en soirée à 7h30, on a Miami, 3e dans la nation présentement, avec leur corps arrière Carson Beck, qui iront affronter Florida State. Au Doak Campbell Stadium à Tallahassee en Floride. Donc c'est les matchs que je vous suggère d'écouter en fin de semaine niveau NCAA, les amis. On y va maintenant. Qu'est-ce qui nous attend pour la semaine? Ce soir ou hier soir pour vous si vous l'écoutez, possiblement vendredi matin, on a les Rams qui affronteront les Niners, qui n'auront pas Ricky Purcell, n'auront pas Juwan Jennings. En plus de toutes les blessés, c'est Christian McCaffrey against the world. Je ne les vois pas fournir une bonne opposition aux Rams ce soir. Je crois que les Rams, plus particulièrement leur défense, vont s'en donner à cœur joie. Et au niveau de l'attaque, peut-être rien de phénoménal, mais les performances standards, je serais même intéressé par le spread à -8.5 pour les Rams, honnêtement. Pour les Niners, une équipe qui est bien entraînée peut toujours être compétitive. Par contre, je vais vraiment y aller avec les Rams pour le match de jeudi soir. On commence fort, les gars. Je vous ai parlé que les Vikings avaient un match-up quand même difficile en fin de semaine. Pour ce qui est l'avenir, ils affronteront une des meilleures défenses du football en les Browns de Cleveland. Les Vikings qui sont favoris par 3.5. Give me the Browns! Je pense que les Browns vont complètement museler la défense des Vikings, comme ils l'ont fait cette année avec presque toutes les équipes contre lesquelles ils ont joué. Je vois les Browns, avec le premier départ de carrière d'ailleurs de Dylan Gabriel, sortir de là avec une victoire contre les Vikings. Match qui sera d'ailleurs encore une fois cette semaine, l'autre côté de l'océan. Donc ça sera un match à 9h30 ce dimanche. Toujours un plaisir de synthétiser RDS à 9h le matin et d'entendre mon idole Didier Ormejuste discuter de points de football. Honnêtement, je ne connais pas une meilleure façon de démarrer mon dimanche. Les Cowboys qui seront en visite à New York et non pas pour affronter leurs rivaux de division, les Giants, mais plutôt les Jets. Les Cowboys sont favoris. Je crois qu'ils vont bâtir sur la bonne performance qu'ils ont offert aux Packers la semaine dernière et qu'ils vont prévaloir contre les Jets à la maison. Donc je vais choisir les Cowboys dans ce match-up-là. Par contre, je n'exclus pas la possibilité que Justin Fields se fasse beaucoup de plaisir contre la défense des Cowboys. Défense des Cowboys qui a été par moments poreuse cette saison. Honnêtement, je vais prendre les Cowboys, Je pense qu'ils justement ils vont build sur qu'est-ce qu'ils ont fait la semaine dernière, mais ne pas exclure une très bonne performance de Justin Fields possiblement dans ce match-là. Broncos qui ont un gros opponent, ils s'en vont jouer à Philadelphie et je crois que les Eagles leur réserveront le même sort que les Bucks la semaine dernière, soit une victoire, mais une défaite, pardon. Et les Broncos perdront. Je vais prendre les Eagles dans ce match-up-là à la maison. Je crois qu'encore une fois, on fera rien de compliqué. On sait à quel point la défense des Broncos est tenace. Donc on va avoir un game plan méthodique et on va aller chercher le match dans du football de situation. Du côté des Ravens, ils doivent vraiment bounce back. Et je pense que ça fait quelques semaines de football que je n'ai pas vu ça. Les Ravens... les Texans sont favoris par 2 contre les Ravens. Le fait que personne n'a été mis dehors encore chez les Ravens me laisse croire qu'on croit encore au noyau non seulement d'entraîneurs, mais surtout d'entraîneurs, parce que du côté des joueurs, c'est juste des gars qui doivent débloquer, notamment Derrick Henry un peu. Je suis un petit peu non satisfait de ses performances en tant que owner fantasy, on va se le dire, mais je suis quand même un peu déçu de la façon qu'il joue cette saison. Je crois que c'est un bounce back game pour les Ravens à la maison. Give me the Ravens easily in this one. Les Raiders iront du côté d'Indianapolis. Raiders qui est une équipe qui crée beaucoup de turnover et qui alloue beaucoup de points. Les Colts cette saison qui est une équipe qui n'ont pas commis beaucoup de turnover et ne donne pas nécessairement beaucoup de points. Je crois que les Raiders, je crois que les Colts seront sans pitié. Face aux Raiders, je vais prendre les Colts cette semaine. Par contre, favori par 7 points, je trouve que c'est peut-être un petit peu intense. Je pense que les Raiders vont come to play quand même dans ce match-là. Les Dolphins qui sont favoris par seulement 1 contre les Panthers. Les Panthers également, qui ont été défaits la semaine dernière contre les Pats, quand même de façon importante, là, par près de 30 points. Je crois que les Dolphins... Leur lune de miel ne durera pas longtemps et que les Panthers remporteront à la maison dans cet affrontement. Maintenant, mes Giants seront en Louisiane pour affronter les Saints. Les Saints sont favoris par 2. Spencer Rattler, le carrière des Saints, il est allé de commentaires plutôt arrogants aujourd'hui dans une conférence de presse à l'endroit de la défense des Giants. Et de ce fait... Mes Giants vont aller remporter la victoire là-bas. Je crois que ça va être un match qui va être gagné par encore une fois par la défense, possiblement. Give me the Giants in the Dome. Les Bucks vont rendre visite aux Seahawks. C'est les Seahawks qui sont favoris par 3.5 dans ce match-up-là à la maison. Je m'attends à un bounce-back des Bucks. Je ne suis pas convaincu encore à 100% que les Seahawks peuvent être une équipe qui est une gagnante des divisions. Je vais avec les Bucks qui bounce back dans ce match-up-là, malgré les blessures. Je pense que Baker Mayfield n'acceptera pas de perdre 2 games de suite. Les Cards, maintenant, sont favoris par 7.5 à la maison contre les Titans dans les games plus tard la journée. J'ai pas le choix d'aller avec les Cards, les gars. Je ne serai pas dans la même erreur que mes collaborateurs de la semaine dernière. Cards all the way. Et possiblement... peut-être encore un breakout. Ben, pas encore un breakout, là, ça se dit pas vraiment. Mais possiblement Marvin Harrison, qui pourrait être intéressant. Là. J'ai dit de faire attention au début d'épisode où vous allez slotter dans votre line-up. Je l'aime bien contre les Titans en fin de semaine. Les Bengals qui reçoivent les Lions de Détroit. Pas grand-chose à dire. Aiden Hutchinson, sérieux, sortez les napkins parce qu'il va vraiment hit en fin de semaine. Ça va être... n'importe quoi, et on connaît la défense des Bengals. On a encore beaucoup d'enjeux à régler à ce niveau-là. Tout ce qui attaque des Browns en fantasy, stream it! Stream it, boys! Est-ce que les Commanders pourront bounce back avec Jalen Daniels? Eh bien non, je crois que les Chargers, de leur côté, eux, n'ont pas apprécié la défaite de la semaine dernière, vraiment pas. Surtout qu'ils seront à la maison. Quoique, comme j'ai mentionné plusieurs fois, ils n'ont pas vraiment de fans, cette équipe-là. Quoique les Commanders non plus. Donc, ça devrait être un bol vide à LA en après-midi, dimanche. Je crois que les Chargers, justement, là, doivent bounce back. Et les Commanders, avec l'absence de McLaurin, je ne suis pas assez confiant de leur côté. Sunday Night Football, All AFC East. Les Pats qui vont rendre visite aux Bills à Buffalo. Les Bills qui sont favoris par 8. Un peu comme un match-up la semaine dernière. Pas la semaine dernière. Mais les Dolphins qui affrontaient, si je ne me trompe pas, je ne me rappelle plus, complètement dingue. J'avais dit les Dolphins ne se feront pas rincer dans ce match-là. Eh bien, j'ai l'impression que les Pats ne se feront pas encore rincer dans ce match-là. J'aurais vraiment tendance à regarder les spreads du côté des Pats. Évidemment que je choisis les Bills, là, mais je pense que si on s'attend à une dégelée, ça risque d'être peut-être un petit peu plus serré que prévu à ce niveau-là. Et finalement, on a seulement un match lundi prochain. Et ce sera les Jags qui vont recevoir les Chiefs. Belle opportunité des Jags de continuer et de s'améliorer à 4-1 cette année. You know what? Give me the Jags. Les Jags à la maison en prime time. Ça fait longtemps que j'ai pas vu les Jags en prime time. Je pense que ça va être d'ailleurs un bon match. Et je pense que les Jags vont l'emporter sur les Chiefs lundi prochain. Donc, give me the Jazz. Alors, les gars, ça fait le tour. On a parlé de ce qu'on avait à se dire niveau semaine dernière, NCA, quelques petits tips niveau fantasy. Encore une fois, ça a été un plaisir de vous offrir l'expérience du Tailgate Podcast sur vos applications de streaming favorites. Je vous souhaite un excellent match ce soir pour ceux qui écouteront le podcast qui devrait sortir pour une fois avant le match. Et sinon, un bon vendredi. De mon côté, je m'en vais me parquer dans le salon. Double Trouble, le match de la NFL et la game décisive entre les Red Sox et les Yankees ce soir. Alors bonne soirée, bonne journée et à la semaine prochaine. Yankees suck!